France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, en public, à la Chapelle Corneille, auditorium de Normandie, ici à Rouen, l'attentat contre le DC-10 du théâtre. C'est un traumatisme ressurgi du passé. Un attentat contre la France qui se retrouve, des années après, au cœur de l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. L'attentat s'est déroulé le 19 septembre 1989. Ce jour-là, une bombe explose dans un avion français au-dessus du Niger, coûtant la vie à ses 170 passagers. Le 25 septembre 2025, Nicolas Sarkozy est condamné pour association de malfaiteurs. Entre ces deux événements, que 36 années séparent, il existe un trait d'union, un homme. Abdallah Senoussi, patron des renseignements libyens et beau-frère de Kadhafi. C'est lui qui a organisé l'attentat. Et c'est avec lui que Nicolas Sarkozy aurait scellé un pacte corruptif, pour reprendre les mots du jugement, qui parle d'argent pour sa campagne, en échange, entre autres, de l'abandon des charges pesant contre Kadhafi. Alors je dis « aurait », car dès lors qu'il a fait appel, au moment où nous parlons, l'ancien président français est toujours considéré comme innocent. Notre invité aujourd'hui, Guillaume Denoy de Saint-Marc, président de l'association des familles de l'attentat du DC-10 d'UTA, son père est l'une des 170 victimes. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Romain Weber, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Janvier 2025, c'est un cortège de douleurs qui entre au tribunal judiciaire de Paris. Ils sont 94, des hommes et des femmes d'âge et d'origine différents, mais qui ont un chagrin en commun. Toutes et tous ont perdu un proche le 19 septembre 1989. Un mari, une femme, un fils, un père, certains une famille entière, victimes de l'attentat contre le vol UTA 772 au-dessus du Niger. Ce 23 janvier 2025, ils viennent témoigner. Pourtant, ce ne sont pas des terroristes qu'on juge ce jour-là. Les 11 hommes qui se serrent dans le box des accusés ne répondent pas de l'attentat, mais d'avoir négocié avec son commanditaire, un certain Abdallah Senoussi. Un nom synonyme de mort pour les proches des victimes, mais un individu qu'ils n'ont jamais vu. Pour les prévenus, en revanche, Senoussi a une existence très concrète. Certains lui ont serré la main et ont dîné avec lui. C'est le cas de Claude Guéant. C'était le 1er octobre 2005 dans un hôtel à côté de Tripoli. Brice Hortefeux a fait de même 2 mois plus tard. Ce procès en 2025 n'est donc pas celui du DC-10, c'est celui du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Senoussi dirigeait les renseignements de la Libye. Il était aussi le beau-frère de Kadhafi. En échange d'argent, toujours selon l'accusation, il voulait que la France oublie les charges qui pesaient contre le colonel Kadhafi, le chef de l'État. Dans ce procès, les proches des victimes du DC-10 sont parties civiles et 11 d'entre elles témoignent. Elles ont toutes beaucoup pensé aux mots qu'elles prononceraient et certains à la tenue qu'elles allaient porter. Yohanna Brett, par exemple, est la fille d'une hôtesse de l'air. Elle a noué un foulard à son cou, un foulard de la compagnie UTA. Et elle a fait en sorte que les 3 lettres U, T, A soient visibles pour que Nicolas Sarkozy puisse bien les voir. Alors, les proches des victimes se succèdent. Marie-Vonne Ravenot, l'épouse du pilote, lit avec une froide colère les lettres qu'elle a envoyées à Jacques Chirac et à Nicolas Sarkozy du temps où ils étaient présidents. Des lettres sans réponse. « Ça m'a pris tout mon temps, dit-elle. Il n'y a jamais eu de place pour quelqu'un d'autre. » Alors les prévenus, mal à l'aise, esquivent la confrontation. Il n'y a que Nicolas Sarkozy qui écoute en la regardant. Puis vient son fils, Christophe Ravenot. Il se tourne vers l'ancien président. « Monsieur Sarkozy, le jour de l'enterrement de mon père, j'avais l'âge qu'a votre fille aujourd'hui. » Puis il s'exprime sur France Inter.
En fait, je souhaitais faire résonner chez lui cette dimension humaine. Quand vous enterrez un être cher, sans même avoir l'opportunité de le voir, mais on vous remet des restes dans une boîte fermée en vous disant voilà, j'avais 12 ans à peine, et on me dit voilà, ça c'est ton papa. Et maintenant il faut lui dire au revoir. Et c'est pour ça que je me suis adressé à l'homme. Aujourd'hui il a une fille qui a l'âge que j'avais au moment où c'est arrivé. Et je ne souhaite pas à son enfant qu'on lui marche dessus comme on nous a marché dessus.
Nicolas Sarkozy leur répond avec solennité. Quatre mots ne viennent à l'esprit, comment-il ? La dignité dans les témoignages. La douleur, je la respecte. La colère, comment ne pas la comprendre ? Et le doute ? Eh bien, je suis là pour lever ce doute. Je n'ai jamais trahi les victimes. Je n'ai jamais serré la main ni rencontré Senoussi. Ceux qui témoignent en sont convaincus. Serrer la main de Senoussi, d'autres s'en sont chargés pour lui. Christophe Ravenot, lui, a perdu son père. Pendant des années, il a imaginé errer dans le désert, parce que c'est là que tout commence, le 19 septembre 1989.
On ne sait toujours rien ce matin du DC-10 du TA qui a disparu hier après-midi au-dessus du désert, entre le nord du Tchad et le Niger. À son bord, 154 personnes, dont 14 membres d'équipage. Toutes les hypothèses ont été envisagées par les responsables de la compagnie aérienne, mais hier soir, on était toujours sans nouvelles du vol 772. Et une porte-parole du TA, Françoise Le Bihan, faisait le compte du peu d'informations dont elle disposait.
Nous avons longtemps pensé qu'il pouvait s'agir d'un détournement. Les heures passant, la thèse du détournement paraît moins évidente.
C'est donc un accident ?
Un accident, un atterrissage dans des conditions difficiles. Le pilote était un commandant de bord qui est instructeur et qui a une grande compétence. L'ensemble de l'équipage technique était extrêmement compétent.
Personne n'a entendu la détonation. La zone est à plusieurs jours de voiture du premier signe de vie humaine. Même les animaux ne se risquent pas dans cette partie du désert du Ténéré, au beau milieu du Niger. Non, c'est depuis l'espace qu'on a noté l'explosion. Oui, elle est repérée par des satellites américains. Le vol UTA 772, opéré sur un McDonnell Douglas DC-10, a décollé de Brazzaville à 8h47, atterri à N'Djamena au Tchad à 11h13, puis il est reparti pour Paris. L'explosion a eu lieu à 14h59, alors qu'il est à 10 000 mètres d'altitude. Elle éparpille 188 tonnes de tôle et 170 corps sur une zone de 700 km² et répand une grande émotion à travers la planète. France, Congo, Tchad, Maroc, Royaume-Uni, jusqu'au Cambodge et ailleurs, la nouvelle diffuse sa traînée d'angoisse, puis de détresse. Il n'y a aucun survivant. Alors les vies se suspendent. Pour ceux qui les attendaient à l'aéroport, pour ceux qui préparaient le dîner et qui déjà doivent brutalement apprendre à vivre avec le vide. Dans les premières heures, les réactions se conjuguent sur le mode du déni, de l'effondrement et du verrouillage des sentiments. Marie-Bonne Ravenot attendait son mari, Georges, avec leurs enfants. Elle se souvient au micro de l'émission de France Culture, Les Pieds sur Terre, c'était en décembre 2025.
J'ai dit à Hugues, enlève le couvert. Dans ma tête, on sera jamais plus quatre, quoi. Et c'est tout de suite, je lui ai dit ça. C'est ce qui m'est venu à l'idée, mais ça voulait dire quelque chose, voilà. L'attentat avait eu lieu à 15h. Depuis 15h, ils sont sans nouvelles de l'avion. Vous croyez que quelqu'un vient nous prévenir ? Rien du tout. On le prend en pleine face au JT de 20h. Au début, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a perdu un contact avec l'avion à 15h. Et le lendemain matin, on apprend qu'on a localisé l'épave. On parle de l'épave.
L'armée française survole le désert avec les forces nigériennes. Les traces sont repérées dans le massif du Termite, un plateau de dunes et de rochers. De ça, de là, un bout d'aile, de réacteur, des valises et des corps. Les militaires déploient des draps blancs sur chacun d'entre eux et bientôt prend forme une constellation de petites taches blanches reliées dans le sable par les traces des 4x4. On collecte ce qu'on retrouve, les corps pour que les proches puissent les enterrer et les débris pour l'enquête. C'est au juge Jean-Louis Bruguère qu'elle est confiée cette enquête. Bruguère, un nom déjà célèbre. On dit qu'il est le magistrat le plus protégé de France depuis qu'on a retrouvé une grenade sur son palier. Il faut dire qu'il s'est attaqué à la pègre parisienne, à Action Directe et à l'attentat de la rue des Rosiers exécuté par le Fatah palestinien d'Abou Nidal. On dit aussi qu'il dort avec un 357 Magnum sous son oreiller. Bon, on y croit ou on n'y croit pas, quoi qu'il en soit. Il se met au travail autour de cette question centrale. Que s'est-il passé exactement ce 19 septembre 1989 à 10 000 mètres au-dessus du désert du Ténéré? D'abord, les éléments matériels. Il y a de la matière explosive dans la soute et à l'intérieur d'une valise. C'est donc un attentat, c'est certain. Mais de qui? France Inter fait le point, un mois et demi plus tard.
L'enquête sur la catastrophe du DC-10 d'UTA qui a fait 271 morts dans le désert du Ténéré n'a guère avancé depuis 6 semaines. Force est de constater, Rick Young, que pour l'instant, on continue de nager en plein mystère.
Qui dit mystère dit curiosité journalistique. Alors, c'est extraordinaire. Voici qu'un quotidien nous révèle la piste Kadhafi. Un autre dit « Non, non, l'attentat du DC-10 a été organisé par les réseaux chiites pro-iraniens installés en Afrique noire ». Un troisième quotidien de province, celui-ci, affirme que l'attentat visait un étudiant congolais opposé au régime de Brazzaville. Bon, pourquoi pas? Et puisque nous sommes dans le domaine de l'information métaphysique, j'ose y aller de mes révélations. Dans l'avion, il y avait des espions, un marchand d'armes, une femme d'ambassadeur, quelques agents de la CIA, des explosifs et quelques fusils. Il y avait même, on me l'a dit, le frère d'une personnalité française qui autrefois était en poste à l'Élysée. Ma modeste qualité à France Inter m'oblige à vous avouer tout de même que je n'ai pas pu vérifier tout cela.
L'attentat n'est pas revendiqué. Mais le juge sait que la clé se cache dans les débris. Parce que la bombe, c'est la signature des terroristes. Alors c'est ce fil-là qu'il commence par tirer. L'explosif, il le remarque, est le même que celui utilisé dans un attentat similaire. C'était moins d'un an plus tôt contre un vol de la Pan Am, compagnie américaine, à Lockerbie, au-dessus de l'Écosse, causant la mort de 270 personnes. Ensuite, il identifie le détonateur et la valise qui contenait la bombe. Une Samsonite. Eh bien, il se rend dans le Colorado, au siège de l'entreprise, pour faire vérifier le modèle. Puis au Congo, pour auditionner à l'aéroport et dans les hôtels à côté. À Taïwan également, où était fabriqué le détonateur. En Allemagne, où il était acheté. L'enquête est monumentale. Et, petit à petit, elle sert un coupable. La Libye. Oh, pas un groupuscule, pas une bande d'illuminés, non. Un État voyou dirigé par un dictateur délinquant, Muammar Kadhafi. Mais quittons un moment le juge et faisons un saut dans le temps. 20 ans plus tard, en 2011, après 42 ans de tyrannie et de coups tordus, Kadhafi est renversé, puis lynché par la foule, selon la thèse officielle. Et ses sbires fuient pour leur survie, laissant derrière eux une somme fantastique de documents classifiés. Quelques Libyens se ruent sur ses archives. Ils les collectent pour que le régime meurtrier de Kadhafi soit condamné. C'est le cas d'un homme du nom de Samir Cheguara. Les documents qu'il sauve sont édifiants. Le juge Bruguière aurait bien voulu les avoir. Ce sont les préparatifs de l'attentat, ni plus ni moins, avec le choix de l'explosif, de l'avion, de l'aéroport. Tout est adressé au numéro 2 des renseignements, Abdallah Senoussi. D'ailleurs, je vous lis un document daté du 24 juillet 89, 2 mois avant l'attentat. Numéro de vol UT-772. Itinéraire, Brazzaville, N'Djamena, Paris. Départ le mardi à 9h15. La majorité des voyageurs est de nationalité française. L'expédition du bagage sans passager exige l'intervention de notre agent sur place. Il faut procéder à la recherche d'un passager africain facile à duper et l'envoyer en tant que passager ordinaire. Voilà comment, froidement, administrativement, Senoussi prépare un attentat comme on organise une élection ou des travaux sur la voirie. Mais refermons ce saut dans le temps et revenons au juge Bruguière. 2 ans ont passé depuis l'attentat. Quand le 19 septembre 91, il invite les familles pour leur dire où en est l'enquête. Une proche des victimes fait part de ses attentes au micro de France Inter.
Je pense qu'en effet, cette vérité complète, nous n'arriverons pas à la connaître. Je pense que nous ne pouvons même pas l'exiger si jamais d'autres vies humaines sont en danger par ce fait.
Quelles sont les questions que vous aimeriez poser au juge?
Qu'il nous indique un petit peu les limites de ses possibilités de nous dévoiler la vérité. Qui nous le disent en toute simplicité et on peut essayer de le comprendre. Si on peut, par l'intermédiaire d'une vérité, effectivement rechercher et trouver, eh bien éviter que d'autres chose de semblable ne se renouvelle. On est parce que ça entraîne trop de souffrance.
Les familles sont les premières à apprendre que le juge Bruguère accuse Tripoli. Il leur explique que les Libyens ont recruté un dissident congolais pour qu'il embarque avec la valise piégée. Mais pourquoi ? Pour comprendre, il faut saisir la nature de ce régime. Depuis qu'il est au pouvoir, Kadhafi règne par une extrême violence. Il a transformé son pays en un foyer de contestation arabe contre l'Occident, a financé des terroristes dans toute l'Afrique et a mené des opérations à l'international pour assassiner ses opposants. C'est ça l'État voyou. Il s'est attiré les foudres des États-Unis qui le bombardent en 86 et la France lui fait la guerre au Tchad. Voilà les deux raisons immédiates qui le conduisent à ordonner ses attentats contre l'avion de la Paname, puis contre celui d'UTA, États-Unis, France. Car pour Kadhafi, le terrorisme est un levier comme un autre. Et c'est Senoussi, son beau-frère, qui joue les chefs d'orchestre. Seulement, accuser Kadhafi, voilà qui chagrine la France. Le ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, Roland Dumas, fait la grimace. Et il se vante d'être un grand ami de Kadhafi. Il est justement en train de négocier des contrats pour Alstom, EDF et Peugeot. Alors, mieux vaut oublier cette fâcheuse histoire. Mais le juge Bruguère, lui, sait que dans l'affaire de la Paname, Lockerbie, les Américains vont lancer deux mandats contre des Libyens. Alors il prend le pouvoir de vitesse et en lance quatre de son côté, dont un contre Senoussi. Et le pouvoir est obligé de suivre. Et François Mitterrand s'exprime sur le sujet en décembre 91.
Si on nous demande, et on nous demandera, d'exécuter certaines des propositions du juge d'instruction, ben nous sommes totalement à la disposition. Pour ce qui concerne les autorités libyennes, il leur appartiendra de faire savoir de quelle manière elles sont disposées à tenir compte de nos décisions d'ordre judiciaire. Enfin, le gouvernement est là pour faciliter la tâche de la justice, d'autant plus qu'il a profondément à cœur de ne pas laisser impuni l'assassinat de nos compatriotes.
Une intention ferme, mais un vœu pieux. La suite va le prouver. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'attentat contre le décédiste du TA.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
19 septembre 1996. 7 ans jour pour jour après l'attentat, la justice patine. Il y a désormais 6 mandats d'arrêt, mais la Libye refuse d'extrader les suspects. Alors, impuissants, certains proches tentent d'oublier, quand d'autres se mobilisent au contraire pour qu'on se souvienne. Il existe maintenant un journal des victimes et des hommages au cimetière du Père-Lachaise où sont enterrés 65 corps non identifiés. Journalistes et politiques viennent y assister. Nous sommes à l'aéroport du Bourget, ce 19 septembre 1996. Le juge réunit les familles une nouvelle fois. Il ouvre la porte d'un gigantesque hangar et tous retiennent leur souffle. Devant eux se tient le squelette de l'avion. Des morceaux de ferraille noircis et cabossés recollés les uns aux autres sur une grande armature. Tout l'avant de l'appareil a été reconstitué et Bruguière en fait le tour avec ses visiteurs. Certains se recueillent, d'autres sont soufflés par le choc. Un mécanicien vient au devant d'une jeune femme dont le père, mécano lui aussi, fait partie des victimes. Il lui offre un bout d'aile. On assiste à cette attention avec les larmes aux yeux. Puis Bruguière raconte l'enquête. La fois où il est arrivé en Libye sur un bateau de la marine et qu'il a été refoulé par Kadhafi. Cette valise piégée, identique à celle de l'attentat que la DGSE a retrouvée chez les Libyens. Tous les rebondissements qui achèvent de faire de la Libye le responsable de cet attentat terroriste. Les familles l'écoutent, mais il y a une dissonance entre ceux qui subissent cette épreuve, qui n'en finit pas, et le juge qui a choisi ce métier pour ce genre d'affaires, précisément, et qui semble en tirer une grande satisfaction professionnelle. Un procès va se tenir, leur dit-il, mais un procès par contumace. Ce qu'il ne dit pas, c'est que Chirac et Kadhafi ont négocié directement. Le décédiste entrave leur relation. Alors, ils ont conclu un marché. Le procès se tiendra, mais les Libyens resteront chez eux. Ce procès s'ouvre le 8 mars 1999. Marie-Caroline de Longevial, qui a perdu sa sœur, répond à France Inter.
Moi, j'attends, mais je pense que c'est sans espoir. J'attends de savoir pour quelle cause ma sœur est morte. Et je pense que les assassins qui ne sont pas aujourd'hui dans le box des accusés sont considérés dans leur pays comme des défenseurs, peut-être même comme des héros. Ils sont peut-être même décorés à l'heure actuelle par M. Kadhafi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord que ma sœur se fasse assassiner pour une bande de terrain qui doit être un bout de désert. Enfin, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais effectivement, puisque les accusés ne sont pas là, nous ne savons pas ce que nous attendons de ce procès.
10 ans d'attente, 500 parties civiles, aucun prévenu. Bon, protocole oblige, l'huissier demande quand même s'ils sont là. Abdallah Senoussi, silence. Abdallah Senoussi, non. Senoussi n'est pas là. Pour autant, le box n'est pas vide. On y a mis les journalistes. Les Libyens sont condamnés, les familles écoutées, mais ce procès laisse forcément un goût amer. Les indemnités sont faibles et uniquement pour les Français. Il n'y a que la Libye pour s'en satisfaire. Pour les familles, il y a encore beaucoup de colère, mais plus aucun recours. Alors, elles retournent à leurs vies abîmées, découragées, indignées. Oui, indignées, parce qu'elles assistent à la reprise des affaires commerciales et culturelles entre la France et la Libye. Ainsi, tranquillement, le 26 février 2002, l'Institut du monde arabe annonce une exposition libyenne. Et de surcroît, il ne s'agit pas de n'importe quelles œuvres. Ce sont des toiles d'un certain Saïf al-Islam Kadhafi. Elles figurent des roses, le désert et des portraits de son père, Muammar Kadhafi. Quand Guillaume Denoy de Saint-Marc, qui a perdu son père dans le décédis, apprend la nouvelle, il est abasourdi. La Libye est accueillie à bras ouverts et le gratin de la diplomatie est convié. Alors il s'y rend lui aussi avec la présidente de l'association SOS Attentat, Françoise Rodeschi, qui se bat avec les familles depuis le début. Or, c'est sous les huées qu'elle prend la parole pour confronter le fils de Kadhafi. Pour Saïf al-Islam, le décédis n'est pas un attentat, c'est un accident. Guillaume Denoy de Saint-Marc fulmine, mais il retient sa colère parce qu'il attend son tour. Et il saisit le moment du cocktail pour se planter devant lui et lui dire dans les yeux « Mon père était dans le décédis ». Le fils Kadhafi se fige. Cette présence le perturbe, mais il ne le repousse pas, non, il l'écoute. Il ne semble pas être la même brute que son père ou son oncle, Abdallah Senoussi. Ce que vous dites est intéressant, répond-il. Donnez-moi vos coordonnées, je vous recontacterai. Le contact est ainsi établi. Des négociations s'ouvrent de nouveau parce que Saïf al-Islam comprend que l'affaire contreviendra aux affaires franco-libyennes tant qu'elle ne sera pas soldée. Alors on se remobilise, les familles reprennent contact, on retisse ce grand réseau de douleur et d'entraide. Près de 15 ans ont passé et on voit apparaître ceux qui ne pouvaient pas se mobiliser en 1989, les enfants devenus adultes. Romain Renaudot, par exemple, qui a perdu son père quand il avait 9 ans et qui confie qu'il plonge dans le désespoir le 19 de chaque mois. Tous regardent aussi l'affaire parallèle, celle de l'attentat de Lockerbie, qui avance bien mieux. Ce que Françoise Rodeschi dénonce d'ailleurs en août 2003.
Il y a eu pour Lockerbie une extradition de deux auteurs présumés, un jugement, une condamnation. Un des deux auteurs purge sa peine dans une prison écossaise. Et maintenant, la Libye est prête à reconnaître sa responsabilité et à verser des dommages et intérêts. Pendant ce temps-là, nous avons mené seuls une procédure judiciaire qui a abouti à un procès par contumace qui ne peut pas satisfaire les victimes. Des ministres français se sont rendus en Libye, ont même serré la main d'un des condamnés, Monsieur Senoussi, le beau-frère de Kadhafi. Et le gouvernement français est prêt à signer des contrats avec la Libye au mépris de la justice. Alors il y a eu un changement d'attitude. Nous avons été reçus par Monsieur De Villepin, qui nous a assuré que la France chercherait à trouver une solution équitable.
Ministre des Affaires étrangères, Dominique De Villepin prend l'affaire très au sérieux. Et alors que Guillaume Denoy de Saint-Marc multiplie les contacts avec les Libyens pour trouver un accord, Villepin brandit la menace diplomatique. Si la Libye ne met pas la main au portefeuille, la France opposera la levée des sanctions internationales. Et la menace opère. Le 9 janvier 2004, après d'infinies négociations, les familles signent un accord. La Libye verse 1 million d'euros à chacune. Mais le document ne reconnaît pas qu'il s'agit d'un attentat et contraint les proches à abandonner les affaires définitivement jugées. C'est une victoire, mais en demi-teinte pour certains. Cela dit, tous acceptent, tous, sauf une famille, Marie-Vonne Ravenot, la femme du pilote. Elle s'en explique sur France Culture.
En 2003, j'ai refusé l'indemnisation proposée aux victimes. Cet accord a été signé entre un collectif de victimes et Kadhafi. J'ai refusé l'indemnisation parce qu'il y avait le mot « explosion » et il n'y avait pas le mot « attentat ». J'y tiens à ce mot « attentat ». Une explosion, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la faute du pilote, ça peut être... Non, c'est un attentat. C'est tout.
Fin de l'histoire. Après 15 ans de lutte, les familles savent qu'elles n'auront pas plus. Et puis il y a aussi sûrement le besoin de tourner la page, sans la tourner vraiment. Pour boucler son deuil, Guillaume Denoy de Saint-Marc veut se rendre dans le désert. Car pour lui, il est temps. Avec sa compagne et deux autres proches des victimes, Pierre-François Ikias et Caroline Bricourt, il s'enfonce avec un guide dans les dunes du Ténéré. 18 ans plus tard, il y a encore quantité de vestiges éparses, tordus par la chaleur. Émue, la petite équipe progresse dans ce paysage désolé parmi les morceaux de carlingue. Un grand creux concentre l'essentiel des derniers débris, des canettes, des boucles de ceinture, des chaussures, des jouets. Un bout de fuselage à moitié ensablé. L'équipe sort et le redresse. Un aileron semble émerger du désert. Eh bien, ce sera le centre du mémorial qui leur permettra, ils l'espèrent, de passer à une nouvelle phase de leur deuil. Mais ils ont beau tenter, l'actualité les tire en arrière. Tous se rappellent en tout cas ce qu'ils faisaient en décembre 2007 quand le nouveau président Nicolas Sarkozy a accueilli Kadhafi à l'Élysée. Les images sont choquantes. Celles de sa tente dans le jardin présidentiel, sa visite du Louvre, ses balades sur les quais de Seine. Humiliation pour la France. Clément Mamboussin, qui a perdu son père dans l'attentat, réagit au micro de France Inter.
C'est inadmissible, je trouve. Et il vient ici pour signer des contrats, mais bon, on peut très bien les signer à Tripoli. Quand en plus à Lisbonne, vendredi, Monsieur Sarkozy dit qu'il est très heureux de le recevoir à Paris lundi. Pour moi, qui suis une famille de victimes, entendre mon président qui dit ça, c'est inadmissible. C'est dégueulasse.
Monsieur Mouboussin, on vous sent très ému.
Ah bah oui.
Ému. C'est quoi le sentiment? C'est d'abord de la colère, c'est ça?
Aujourd'hui, oui, c'est de la colère. De voir que le terroriste qui a tué mon père et d'autres Français soit reçu en grande pompe à Paris, c'est en plus quand on voit sur l'hôtel Marigny le drapeau libyen qui flotte, ça me déchire le cœur.
Cette visite est incompréhensible pour les familles. Mais le mystère se dissipe 4 ans plus tard. En 2011, Johanna Brett, fille d'une hôtesse de l'air, suit à la télé la chute du régime Kadhafi. Elle voit les images de la répression sanglante ordonnée par Senoussi. Et elle pleure à l'annonce de la mort de Kadhafi et devant le film brutal de ce corps inanimé traîné sur les routes, parce que désormais, il n'y a même plus d'espoir qu'il soit jugé. Jusqu'au jour où des articles apparaissent dans la foulée. Ils viennent de Mediapart, un nouveau média en ligne. Le premier de ces articles a pour titre « Sarkozy géant, le grand soupçon libyen ». Alors, le réseau des proches des victimes se réactive. On s'envoie des articles en cascade et se dessine petit à petit une affaire qui les concerne. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir négocié un financement de sa campagne présidentielle avec un homme dont la simple évocation les glace depuis 20 ans, le meurtrier de leurs parents, Abdallah Senoussi. Nicolas Sarkozy dément, mais les documents retracent une chronologie limpide. Le 1er octobre 2005, au moment où la Libye versait les indemnités aux victimes, Claude Guéant, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, dîne avec Senoussi au bord de la mer. Le 6 octobre, c'est le président français lui-même qui est accueilli par Kadhafi et qui lui parle de la situation de son beau-frère. Le 25 novembre, Thierry Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy, rencontre l'avocat de Senoussi. Le 21 décembre, Brice Hortefeux, futur ministre de l'Intérieur, rencontre Senoussi chez lui. Il est accusé de lui avoir transmis des coordonnées bancaires. Le Libyen dit avoir eu l'accord de Kadhafi pour un financement à hauteur de 7 millions d'euros. 2 900 000 sont versés le 31 janvier 2006 sur un compte appartenant à l'intermédiaire Ziad Takieddine. Puis 1 million le 25 mai et 2 autres millions le 21 novembre de la même année. 3 ans plus tard, une note de Takieddine fait état des conclusions de l'avocat Thierry Herzog pour résoudre le cas Senoussi. L'homme d'affaires libanais affirme que Senoussi a trouvé trop cher les honoraires de l'avocat et que l'affaire s'est arrêtée là. Thierry Herzog, Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux contestent. Et Marie Bonravno raconte.
Donc à partir de 2011, on entend que Sarkozy, sa campagne aurait été financée par Kadhafi. J'ai été en colère de voir que mon pays, les politiques en qui j'avais confiance, ont été derrière notre dos parler avec Senoussi, avec un des terroristes. C'est comme si les gens du Bataclan se rendaient compte 10 ans après que des politiques avaient été parler avec Saddam Hussein. Ça a été un choc énorme.
Quand Marie Bonravno apprend que Nicolas Sarkozy va être jugé, elle décide de se porter partie civile. Elle qui se tient à l'écart des associations depuis 1989. Elle qui a refusé le million d'euros. Elle qui marche seule avec son deuil. Cette fois, elle rejoint les autres. C'est donc unie que les proches des victimes entrent au tribunal le 23 janvier 2025 au matin pour confronter les prévenus. Johanna Brett, la fille de l'hôtesse de l'air, rappelle à Nicolas Sarkozy cette scène cruelle. Quand elle était jeune, son grand-père l'emmenait le 19 septembre aux commémorations au Père Lachaise. Et un jour, Nicolas Sarkozy était là. Il lui a mis la main sur l'épaule et lui a dit qu'il fallait être courageuse. Le 25 septembre 2025, le même Nicolas Sarkozy est condamné à 5 ans de prison ferme, à 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour association de malfaiteurs. Le pacte corruptif est établi par le jugement en première instance et le tribunal reconnaît le préjudice aux proches des victimes. Daniel Klein, qui a perdu son frère, répond à France Inter devant le tribunal.
Au sein de notre petit groupe, là, des filles du décédiste, comme maintenant on s'appelle, moi j'ai rencontré des femmes que je ne connaissais pas et qui nous ont dit, Johanna, qui nous ont dit « Je n'ai jamais voulu participer à rien. Je n'avais pas la force, j'étais trop loin, c'était trop dur. » Et on a vu arriver, en fait, deux ou trois femmes qui ont senti que là, c'était leur place. Je pense notamment à la femme du pilote qui m'a dit il n'y a pas très longtemps « C'est la première fois que je me sens bien dans cette histoire, que je me sens bien alors qu'elle fait partie d'un procès. » Et ben voilà, on a gagné. Rien que pour ça, on a gagné.
En attendant le procès en appel de Nicolas Sarkozy qui aura lieu entre mars et juin, les familles de victimes peuvent savourer. C'est un début de justice qui leur échappe depuis 37 ans. Effectivement, rien que pour ça, elles ont gagné.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'attentat du décédiste d'UTA. Notre invité, Guillaume Denois de Saint-Marc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association des familles de l'attentat du décédiste d'UTA. On vous a évoqué pendant le récit. Et vice-président de l'association Europe qui vient en aide aux victimes du terrorisme. Votre père, je le rappelle, Jean-Henri, est une victime de l'attentat du décédiste. Et vous racontez votre combat dans le livre « Mon père était dans le décédiste », livre paru aux éditions privées en 2006. Vous dédiez votre vie à l'aide aux victimes de terrorisme. Pour se reconstruire, d'autres préfèrent tourner la page. Cet engagement vous a-t-il aidé à traverser votre deuil ?
Je dirais, dans un premier temps, j'ai voulu tourner la page. Et puis, je me suis aperçu que ça se fait pas. C'est impossible. J'étais dans le déni, j'ai essayé de travailler. Alors, j'étais très bon. J'ai eu des résultats commerciaux complètement dingues parce que je ne faisais que travailler pour ne pas penser. Et j'étais spectateur de ma vie. Et c'est que quand j'ai commencé à être plus actif, c'est-à-dire à prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire à affronter ce traumatisme violent, que j'ai pu arriver à revivre progressivement, à m'impliquer dans l'histoire qui me concerne. Et ensuite, après ce que vous avez évoqué, qui était très émouvant, toutes les étapes qu'on a eues, le procès, etc., les négociations, après que j'ai interpellé Saïf al-Islam Kadhafi, 2 ans de négociations à Tripoli, à Londres, à Paris, j'ai perdu l'entreprise que je dirigeais. Elle a coulé parce que je ne pouvais pas à la fois être...
Vous avez consacré votre vie,
oui,
ça on peut le dire.
Et je dirais qu'une fois que j'ai construit le mémorial du décédiste, dans le désert du Ténéré, ça a été pour moi l'occasion de pouvoir être... J'étais plus apaisé. Le fait que, d'ailleurs, Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de Kadhafi, m'a demandé pardon à titre personnel.
Ouais.
Et je dirais que même à Tripoli, pendant les négociations, il y a un moment où c'était très médiatisé, et j'ai croisé... j'avais mal à la tête, une migraine pas possible, parce qu'on attend... Enfin, c'est très pénible, c'est très, très lourd. Et j'ai voulu aller acheter du paracétamol dans le souk de Tripoli. Et alors, il faut voir ce que c'est qu'une dictature. Tout est surveillé, il y a des caméras partout, etc. Et il y a un kidam qui m'a bousculé et qui m'a chuchoté à l'oreille. Je sais qui vous êtes. Au nom du peuple libyen, je vous demande pardon pour ce qu'on vous a fait. Vous voyez, j'en ai encore les...
Il y a quoi, oui.
Et en fait, je me suis aperçu que toute la négociation, c'est ça que j'allais chercher.
D'accord.
C'est la reconnaissance de responsabilité.
Alors évidemment, quand vous apprenez que Nicolas Sarkozy et ses comparses vont être jugés, j'imagine que pour vous c'est un choc positif, évidemment.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous apprenez la nouvelle? Rien que ça.
Alors, dans un premier temps...
Déjà avec Mediapart.
Oui, alors, tant que c'était... Je n'étais pas surpris par le fait qu'il y ait un accord financier. Il se trouve que, du fait de mon expérience, j'ai aussi participé... À soutenir les infirmières bulgares et le médecin palestinien qui était détenu en Libye. Donc j'ai suivi un certain nombre d'autres dossiers liés à la Libye. Et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, que Nicolas Sarkozy, en tant que ministre de l'Intérieur, et ensuite j'en sais rien, mais c'est de se rapprocher beaucoup de la Libye. Il faut bien voir qu'en fait, on a empêché d'un seul coup, enfin, on a empêché les industriels, les États, etc., de se réconcilier avec la Lipide sans que notre affaire n'était pas résolue.
Ouais.
Or, le jour où on a signé l'accord, d'un seul coup, ça a été le déversement. C'est-à-dire que là, on ne pouvait plus contrôler. Il y avait un appétit pour l'argent libyen, un pays qui était sous embargo, qui gagnait de l'argent parce qu'il produisait du pétrole, mais qui ne pouvait pas le dépenser, avec tout à reconstruire.
Mmh.
Donc il y avait, c'était du miel pour tous les industriels.
C'est sûr, un marché énorme.
Un marché énorme. J'étais pas naïf sur la géopolitique. Mais là, que dans le deal, il y ait le fait de lever, de faire croire aux Libyens qu'on allait lever le mandat d'arrêt international contre Senoussi, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, j'ai voulu me constituer pour en avoir le cœur net, d'abord.
Donc partie civile pour le procès.
Tout à
procès Nicolas Sarkozy, comment vous le vivez ?
Tendu, avec beaucoup de réminiscences, surtout parce que voilà, ça fait ressortir tous les souvenirs, tout ce qu'on a vécu, toutes les trahisons politiques qu'on a eues, hein, parce qu'on a bien vu depuis le début que cet attentat gênait les politiques, gênait tout le monde. Donc, alors qu'en fait, on n'est pas concerné directement. C'est la France qui est visée. C'est peut-être pas mon père ou les autres personnes dans l'avion qui étaient visées. C'est l'État français. Or, l'État français s'en désintéressait, voire voulait étouffer l'affaire. Depuis le début, on n'attend qu'une chose.
Ouais.
Alors, même si l'espoir est ténu, c'est qu'un jour, Abdelhak Senoussi soit jugé. Enfin, on ne lâchera jamais là-dessus.
Bien. En attendant, sur le procès de Nicolas Sarkozy, ce qui l'a caractérisé, on va écouter une archive d'ailleurs. C'est une médiatisation hors du commun, un empire médiatique qui s'est mis au service de Nicolas Sarkozy pour le défendre. On a vu tous les médias aller devant son domicile dans le 16e arrondissement avec une profondeur de champ qui faisait avoir l'impression qu'il y avait 10 000 personnes. Je crois que c'était pas plus de 100. Nicolas Sarkozy a sorti un livre en sortant de prison. Et je vous propose d'écouter ce qu'on dit Yoann Abrette, justement, fille de l'une des hôtesses de l'air, proche des victimes. C'était pour Les Pieds sur Terre sur France Culture. Écoutez.
Pour moi, ça a été terrible, au point que j'en ai tellement serré les dents que je m'en suis cassé une. Je dois ma première couronne à M. Sarkozy et ses camarades. Depuis le jugement, donc, on essaye quand même de se faire une place dans le débat public et d'avoir une place au sein du cirque médiatique que nous impose toujours Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que la mise en scène de son entrée à prison de la santé, la mise en scène de sa sortie, la sortie de ce livre, il alimente tout seul les choses, quoi. Et nous, on subit.
Guillaume Denoy de Saint-Marc, qu'est-ce que ça vous inspire ?
J'adore la force qu'a Johanna et la douceur en même temps. Je crois que c'est comme ça qu'on a essayé d'avancer, c'est de ne jamais oublier, de continuer à expliquer. Alors, quelquefois, on arrive à se faire entendre, et merci à France Inter pour ça. Mais on doit aussi contrecarrer, malheureusement, une propagande orchestré par Nicolas Sarkozy et ses soutiens, et notamment certains médias qui racontent n'importe quoi, notamment sur le verdict, et qui nous ont beaucoup abîmés. C'est là qu'on s'est aperçu qu'on était très naïfs. On pensait que la vérité judiciaire s'imposerait, qu'il y aurait un certain nombre d'articles où, bien sûr, des gens pourraient mettre en doute éventuellement la condamnation, mais de façon mesurée. On est arrivé. Voilà. Mais le déferlement médiatique qu'il y a eu après le procès, tout le suivi de la mise en détention de Nicolas Sarkozy et la sortie de son livre, mais c'est insultant. Et c'est tellement en décalage par rapport à la réalité du jugement et à la réalité de ce qu'on a entendu pendant les mois d'audience, que c'en est douloureux. C'est-à-dire qu'il y a un déni de justice. Alors, il y a le déni de justice dans le sens où ils ont tout fait pour innocenter quelqu'un qui a tué 170 personnes et qui visait la France, et un deuxième déni de justice où on caricature et on déforme le jugement d'une cour française concernant Sarkozy. Donc c'est choquant, c'est qu'en fait on se demande où est l'état de droit dans tout ça, c'est ce à quoi on s'accroche. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on veut un procès ? C'est qu'on ne veut pas tomber dans la vengeance et la revanche et la haine. Ce qui nous conduit, c'est l'état de droit. C'est pour ça qu'on essaie de rester mesuré, de ne pas jeter du pathos dans l'histoire. on est là pour la sérénité des débats.
C'est quand même un drame, c'est quand même 270 morts.
C'est un drame.
Et c'est de façon exponentielle, je ne sais combien de drames humains pour ceux qui restent. C'est...
Vous savez, l'indemnisation, elle a concerné 1700 personnes.
Mmh. Eh oui.
Parce que, voilà.
À partir de 170 victimes.
À partir de 170 victimes, forcément, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de proches. C'est beaucoup d'histoires particulières. Voilà, c'est beaucoup de monde. C'est un morceau d'humanité qui a été tranché, qui a été retiré de la vie dans cet avion. Il y avait des enfants, il y avait des bébés, il y avait des étudiants qui rentraient pour la rentrée universitaire, qui avaient fait un peu de séjour en Afrique, faire de la coopération. Il y avait des mamans avec leurs bébés qui rentraient parce que les adolescents étaient déjà rentrés et suivaient le vol. On était au moment de la rentrée scolaire.
Absolument. Hein,
donc,
et toute cette inhumanité, il faut lui ajouter quelque chose, alors c'est terrible. Hein. Le monument en hommage aux victimes du décès 10 dans le désert du Ténéré a été vandalisé en décembre de 2023. Vous confirmez qui sont les responsables, qui osent faire ça?
Alors effectivement, j'ai appris par des Toubous qui vivent là-bas, on est en plein milieu du désert, on est à 500 km de la première ville. Et 500 km, il n'y a pas de route.
Disais, c'est vraiment la...
Il n'y a pas de route entre les deux. C'est 3 jours de caravane pour arriver sur place avec des 4x4 qui sont sans sable, etc. Et donc, c'est là que nous avons construit le mémorial. Hein. On a fait ça en un mois et demi avec 140 personnes, avec tous les métiers, en autarcie complète. Et ce mémorial, c'est un Toubou qui m'a prévenu, en voyant des photos, a été détruit. Et on a suivi donc les traces des camions. Et a priori, c'est les forces Wagner, c'est-à-dire les Russes, qui seraient venus pour détruire ce mémorial. Ils sont venus avec des disqueuses, ils sont venus avec du matériel lourd. Parce qu'on avait mis du béton pour tenir l'aile, etc. Enfin, ils ont tout saccagé, dispersé toutes les pierres. Parce que ça représentait l'avion à l'échelle 1. Donc c'est la taille d'un avion, quand même, ce mémorial. Ils ont tout détruit comme acte anti-français, en fait. Et c'est les tuer une deuxième fois, malheureusement.
Merci infiniment, Guillaume Denoye de Saint-Marc. Merci au public de Rouen de nous avoir écoutés. C'est pas tout à fait fini. Bon, vous pouvez, mais c'est pas tout à fait fini. Ouais. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui en direct de Rouen, l'attentat du décès 10 d'UTA, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. Merci à toute l'équipe de la Chapelle Corneille Auditorium de Normandie. Merci à l'équipe technique de Radio France, emmenée par Nicolas Boucard, Alexandre Martin, Benjamin Thuot, Alexandre James, Jérôme Casamé ou Nicolas Estorge, Ralph Yanko et Antoine Billot. Merci à tous. Au revoir.